écoutez le Mac du Tarn sur CFM Radio. Bonjour à tous, c'est Jacques. Nous nous intéressons aujourd'hui à une conférence qui aura lieu mercredi 30 janvier dans le hall du Grand Théâtre de la scène nationale à Albi. Une conférence qui portera sur la rhétorique en politique et qui sera donnée par Jérôme Cabot, qui est entre autres maître de conférence à l'université d'Albi. Une conférence qui propose de décortiquer la rhétorique, ou en tout cas les figures de style que usent certains politiciens dans leur discours, que ce soit en meeting ou lors de grands débats. Et là, en l'occurrence, pour cette conférence, Jérôme Cabot se servira d'un débat qui est resté vraiment dans les mémoires de la plupart des Français. C'est celui de François Mitterrand et Jacques Chirac. C'était en avril 1988, entre les deux tours de la présidentielle. À partir de ce débat, Jérôme Cabot va expliquer un peu comment les politiciens usent de la langue française et ses figures de style, non seulement pour convaincre ceux qui les écoutent, mais aussi prendre des fois, comme là ce fut le cas avec François Mitterrand, de prendre un peu l'ascendant sur leurs opposants en politique. Jérôme Cabot sera avec nous dans quelques minutes. On écoute de la musique et puis on discutera avec Jérôme Cabot de la rhétorique en politique.
TFM, le mag.
Le 31 janvier, la scène nationale d'Albi accueille deux immenses comédiens au Grand Théâtre d'Albi. C'est François Morel et Jacques Weber qui viennent présenter leur pièce de théâtre 1988, Le débat Mitterrand-Chirac. Une pièce de théâtre qui reprend exactement le célèbre débat télévisé entre François Mitterrand, président sortant, et Jacques Chirac, son premier ministre d'alors. En amont de ce spectacle, Jérôme Cabot sera, lui, dans le hall du Grand Théâtre d'Albi à 18h30, le mercredi 30 janvier. Pour nous parler de la rhétorique en politique, Jérôme Cabot est maître de conférence à l'Université Champollion d'Albi. Il est avec nous sur CFM Radio. Jérôme, bonjour.
Bonjour Jacques.
La semaine dernière, Jérôme, tu étais avec nous sur CFM Radio dans ce même magazine pour déjà nous introduire un peu aux figures de style qui sont utilisées par les politiciens dans leurs discours, dans leurs débats, afin, comme tu nous le disais, de convaincre, séduire et plaire ceux qui les écoutent. Donc je rappelle que le 30 janvier à 18h30 dans le hall du Grand Théâtre d'Albi, tu donneras donc une conférence sur la rhétorique et en politique à partir d'un célèbre débat télévisé, de décortiquer un peu comment les politiciens joue avec les mots, et jouer n'est pas toujours mentir, hein, Jérôme, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir comment est-ce que les politiciens, avec les mots, essayent de nous convaincre. Et le débat qui sera utilisé comme superbe exemple, c'est l'un des débats qui est resté dans les annales, c'est celui de François Mitterrand et de Jacques Chirac. C'était le 28 avril 1988, entre les deux tours de la présidentielle. Ils étaient face à Élie Vanier et Michel Cotta. C'était retransmis à la télé à l'époque, hein, sur Antenne 2. Et c'était enregistré à la Maison de la Radio. Je vous propose d'écouter un extrait de ce débat, peut-être l'un des extraits qui est resté le plus dans les mémoires.
Je vous ai observé pendant 2 ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple. Mais je ne vais pas m'engager davantage. Moi, je vous appelle, je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer, vous en avez le droit. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Messieurs, si vous le voulez bien, avant de donner la parole à Michel Cotta pour la prochaine question, puisque l'information a été mise en cause en quelque sorte, permettez-moi d'apporter une précision, et cette fois-ci je le fais, vous m'en excuserez, comme directeur de l'information d'Antenne 2, chaîne publique, je tiens à dire que cette rédaction est libre et indépendante aujourd'hui, mais qu'elle l'était aussi en 1985.
J'ai souhaité laisser l'extrait avec la parole d'Élie Vanier à la fin, qui montre aussi la tension qui existait sur le plateau. Parce qu'on voit bien que les deux journalistes animateurs, Élie Vanier et Michel Cotta, sont tendus de tout le long. Alors là, c'était juste un extrait de ce débat qui dure plus d'une heure trente, je ne me rappelle plus exactement.
2h15. Ouais.
Voilà, donc 2h15, donc un long débat. Qu'est-ce qui, selon toi, Jérôme Cabot, est marquant dans cet échange, d'un point de vue du coup rhétorique, vu que c'est ce qui nous intéresse?
Alors, c'est sans doute l'échange de répartie le plus célèbre de ce débat, et il est très emblématique, en fait. Justement, là, on est sur la question de l'éthos, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'échangent pas des arguments à ce moment-là. C'est simplement sur l'adresse mutuelle, comment l'un va appeler l'autre. Et c'est une manière d'enfermer l'autre dans un certain rôle, une certaine place. Mitterrand a intérêt à appeler Chirac le Premier ministre pour deux raisons. D'abord, rappeler que Chirac était au pouvoir, donc c'est pas le challenger comme on peut le trouver parfois face au président sortant, parce que du fait de la cohabitation de 86 à 88, Chirac était solidaire de Mitterrand et c'était même lui le chef de gouvernement, donc plus dans les affaires courantes que le président retranché un peu à l'Élysée. Donc c'est une première manière déjà de l'associer à un bilan. Chirac ne peut pas attaquer le bilan de Mitterrand parce que c'est en partie aussi le sien. Et au-delà de ça, c'est une manière d'enfermer Chirac dans un rôle de subordonné. L'appeler Monsieur le Premier ministre, ça semble être un titre de courtoisie, c'est l'appeler par un titre prestigieux, mais en fait, implicitement, c'est tout à fait l'inverse. C'est vous êtes mon collaborateur, vous êtes mon subordonné, en fait. Ce que Sarkozy n'a eu de cesse de rappeler à Fillon plus récemment.
Oui.
Et donc, là où ce qui est intéressant, c'est que Chirac se débat, en fait, et rappelle ce que Mitterrand avait rappelé à Giscard dans le même débat en 81. Mitterrand avait dit exactement ce que dit... Chirac. C'est-à-dire que Mitterrand avait dit ici vous n'êtes pas le président de la République, monsieur Giscard d'Estaing, vous êtes mon simple contradicteur. Et en 88 les rôles sont inversés. Donc c'est Chirac qui dit mais attendez, on est juste deux citoyens candidats, monsieur Chirac d'un côté, monsieur Mitterrand de l'autre. Et la malice suprême de Mitterrand, c'est de sembler en apparence lui donner raison, vous avez tout à fait raison. En apparence, mais avec une appellation, Monsieur le Premier ministre, qui vient complètement effacer ce que Chirac croyait avoir gagné, c'est-à-dire une égalité de traitement dans les manières de s'appeler mutuellement. Et donc il y a une espèce de paradoxe, en fait. Et on observe là quelque chose d'assez unique dans ces débats, c'est qu'on entend vaguement un brouhaha dans les quelques personnes, techniciens, conseillers présents, qui sont hors image, mais on entend vaguement un petit brouhaha et des réactions de rire. Parce que c'est un coup de Jarnac, comme Mitterrand en avait le secret. Et on voit que Michel Cotta esquisse un sourire qu'elle n'est pas censée montrer.
Et elle jette des petits coups d'œil à Chirac, comme ça, du genre... Bon.
Et il y a un silence de 3 secondes, ce qui en matière d'échange dans un débat, est un silence très long, en fait. 3 secondes, c'est très long, comme silence. Chirac est perdu, il a la tête sous l'eau à ce moment-là.
CFM, le mag. La vie du pays Gordais.
Nous je l'ai fait. J'attends pour nous, respectez-nous. Nous je l'ai fait. J'attends pour nous, respectez-nous. Si nous pas fait nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour nous?
Fait pour Timoun en nous.
Delgrès, toujours en compagnie de Jérôme Cabot dans ce magazine sur CFM Radio, où nous parlons de la rhétorique en politique. Pour en revenir à ta conférence, Jérôme, comment est-ce que tu as imaginé un peu de tenir cette conférence? Parce qu'il faut parler de rhétorique sans non plus être barbant. Là. L'idée, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils entendent.
Ouais. Alors, je vais commencer par poser un cadre général rapide sur la différence entre le débat privé et le débat public. Donc, ce qui fait que le débat public est plus un jeu de rôle, un spectacle, qu'un réel débat sincère. Présenter après ce à quoi il est intéressant d'être attentif du point de vue de l'analyse de discours, donc la manière dont un tel, un des contradicteurs s'adresse à l'autre, comment il l'appelle, l'ironie qui est évidemment un procédé là dont Mitterrand est le grand maître face à Chirac dans ce débat, le recours à la place qu'on ménage aux mots de l'autre, comment on reprend les mots de l'autre pour soit se les réapproprier, soit les contester, les déformer, les tourner en dérision. Voilà, ça c'est. Et puis quelques éléments comme ça que je présente. Et après, je ferai un zoom sur ce débat de 88 en rappelant quelques points élémentaires, vraiment historiques sur l'état des forces en présence au premier tour et ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais. Et après, je vais prendre quelques points les plus emblématiques et en faisant un va-et-vient entre des extraits de vidéos pour que, après le lendemain, les personnes assistant à la conférence qui viendraient ensuite au spectacle puissent faire le va-et-vient entre la manière dont Weber, qui joue donc Mitterrand, et Morel, qui joue Chirac, s'approprie le texte à la lumière des images authentiques dont je projetterai quelques extraits, avec à chaque fois du commentaire à partir de cas concrets. C'est ça qui est bien en passant les extraits, c'est que, et en mieux encore que de citer des bribes de textes lus, c'est qu'on voit la posture, on voit le jeu de regard. Une fois de plus, c'est une manière de laisser Chirac sur la touche que de ne pas le regarder et de parler de lui à la troisième personne. Mmh. Et donc un va-et-vient, et avec à chaque fois des notions que je devrais employer, comme l'éthos. C'est une notion qui dit tellement bien, qui résume tellement bien la question de la posture, et du coup en les définissant, en les vulgarisant, moi ça me semble essentiel que tout un chacun soit attentif sur l'analyse de discours. Et ce que je dis moi à mes étudiants en littérature, au départ, c'est que vous faites les griffes sur des textes littéraires qui sont du discours particulièrement élaboré, particulièrement choisi dans les figures de style, etc. Mais en fait, quand on quitte le livre et qu'on se tourne vers le discours médiatique, le discours politique, le discours publicitaire, le discours journalistique,
on retrouve toute cette figure de style.
On retrouve, ouais. Évidemment, parce que ce sont divers usages du discours. Le discours littéraire en est une forme un peu particulière, éminemment élaborée, mais quand on se fait les griffes sur le discours littéraire, on écoute d'une manière moins candide le discours politique, par exemple. Mm-hmm. Et du coup, moi, ça me semble être une œuvre de salut public déniaiser, en fait, les auditeurs, les auditrices, les électeurs, électrices, que nous sommes tous, de ces discours-là, en vulgarisant des éléments. Voilà, le débat de 88 est pour moi un cas d'école en or et un bon prétexte, surtout dans le contexte actuel.
Est-ce que tu fais d'ailleurs des parallèles entre ces débats de 1988 et d'autres débats qui ont eu lieu par la suite ?
Quelques-uns, mais pour pas déborder, pas beaucoup. Mais je fais un petit parallèle avec le ronron du débat de 95 Jospin-Chirac. Je fais un parallèle sur la question de l'éthos, en fait, et de la saine colère que Ségolène Royal exprimait en 2007. Parce que là, elle a brisé la glace de ce self-control dont tous les candidats tout le monde doivent faire la preuve, que Mitterrand ne reconnaissait pas à Chirac en disant « c'est un peu un chien fou, il s'enflamme très vite ». Et du coup, voilà, le moment où, face à Sarkozy, Royal dégoupille et le revendique en disant « c'est une saine colère, c'est une colère juste », c'est un cas d'école parce que ça fait un peu exception. En fait, dans les débats. Avec cette nuance que 2017, Macron-Le Pen, on est là sur une dimension outrancière et passionnelle que les précédents débats n'avaient pas montré. Mmh. Donc oui, il y a peu d'exemples, en fait, puisqu'il y en a eu un tous les 7 ans, puis tous les 5 ans, exception faite de 2002, puisque Chirac a dit qu'il ne voulait pas débattre avec Le Pen, père. Mais donc il y a peu de cas en fait à observer support, ouais. Et on peut dégager une évolution historique, mais en ayant en tête que l'évolution historique c'est aussi le changement de personne, que c'est, on n'est pas sur des gros même, volumes c'est que la différence entre un individu et un autre est autant un facteur d'explication que le fait qu'il se soit passé 5 ans entre les deux débats. C'est aussi des affaires de personnes, puisque ce sont deux individus qui s'affrontent à ce moment-là.
On parle de rhétorique et donc du coup on parle aussi d'art oratoire. J'utilise bien le mot art parce que parler en public peut devenir un art aussi. On peut parler pour parler, mais parler pour convaincre, pour séduire, pour plaire, comme tu nous le rappelais, mais aussi pour capter son auditoire, c'est vraiment un art quoi. C'est quelque chose qui s'apprend, qu'on peut apprendre.
Bien sûr, ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend, puis ça s'apprend notamment justement en appliquant son écoute critique au discours des autres. Parce que du coup, plus on est un auditeur critique, plus on est susceptible de devenir un orateur percutant, en fait. Donc, bien sûr que ça s'apprend.
Du coup, j'en viens aux échanges que tu as avec tes étudiants. Donc, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que tu es maître de conférence à l'université Champollion d'Albi. Il me semble quand même qu'en France, cet art oratoire n'est pas vraiment... mise en avant dans l'éducation, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, par exemple, ça se fait beaucoup plus, où dès le lycée, au collège, ils ont même ces compétitions des grands débatteurs. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années par rapport à ça. Toi, en tant que maître de conférence, comment est-ce que tu te situes par rapport à cet apprentissage de parler en public face à tes étudiants?
Alors, dans les études juridiques, il y a la tradition du concours de plaidoirie. Les étudiants de droit de la fac d'Albi organisent là très prochainement un concours de plaidoirie. C'est une tradition dans les
facs de droit.
Dans les facs de droit. Moi, alors après, ceux qui se destinent aux études soit de commerce, soit de politique, de sciences politiques, aux carrières de la haute administration, je pense, ont des temps de formation. Mais souvent, c'est un ramassis de recettes, en fait, un ramassis de trucs et astuces. Et je dirais que là, c'est un peu court, des fois, de limiter ça à un ensemble de grosses ficelles, parce qu'une fois de plus, c'est l'intelligence de la situation, l'intelligence de l'interlocuteur qui peut changer d'une fois sur l'autre, et le sens de l'improvisation qui font le bon orateur en situation. Typiquement, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre, c'est de l'impro pur. Même si Mitterrand pouvait s'attendre à ce que Chirac à un moment s'agace d'être appelé.
Et que lui, il avait fait ça en plus.
Et tout à fait. Avait déjà exactement. En tête, donc, mais bon, on est quand même dans un sens de la répartie en situation. Et c'est ça qui est balèze et qui ne se limite pas du coup à un apprentissage de trucs et astuces. Après, pour ce qui me concerne, vu que j'interviens pas ni en sciences politiques ni dans les études juridiques ou les études commerciales, je dirais que la pratique que j'accompagne de mes étudiants dans le cadre de l'atelier d'écriture sur de l'oralité à travers les scènes slam, c'est aussi de la rhétorique en fait.
C'est vrai.
Sauf que on cherche à partager des émotions, une anecdote vécue, un coup de gueule, un sentiment de révolte, un chagrin d'amour, bon bref, de toutes sortes de choses qui nous unissent tous, parce que c'est du vécu de tout un chacun, voilà. Et de trouver, l'enjeu, c'est de trouver à la fois les mots et la manière de les interpréter sur scène qui fasse que le chagrin d'amour soit pas un chagrin d'amour ordinaire comme il y en a tous les jours, mais le chagrin d'amour de cette personne particulière qui prend le micro à ce moment-là et qui va mettre des mots tels que de la singularité de son expérience, on touche à une forme d'universalité. Et c'est par le maniement des mots que on sort de l'anecdote individuelle dans ce cas-là de banal et qu'on arrive à quelque chose qui est partageable, qui touche à l'universel, c'est-à-dire qui est susceptible de toucher par le jeu du langage, ceux et celles qui sont pas atteints par ce chagrin d'amour-là en particulier, mais qui veulent bien le partager parce qu'il y a un détour par le langage qui est le terrain de rencontre entre celui qui souffre et qui s'exprime et ceux qui écoutent et qui, en fait, partagent.
Partage
donc,
ça, ouais.
Donc c'est une forme de rhétorique, c'est une rhétorique
sans... Ça permet déjà de plaire, de séduire.
Exactement.
Voilà, convaincre, je sais pas. Maintenant, c'est à la force des mots, le poids des mots, comme on le disait aussi.
Avec, là, sur les scènes slam, c'est aussi de la rhétorique, mais là, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Il y a un enjeu de partage et au-delà de ça, de la communication d'une émotion qui se veut une émotion poétique.
Les scènes slam, donc c'est les ateliers Jeff Champeau.
Ouais, c'est ça.
C'est ouvert qu'aux étudiants?
Non, les scènes slam sont ouvertes à tous. Ouais.
Et les ateliers Jeff Champeau, là, par contre, c'est que des étudiants de,
oui,
de la fac.
Oui, parce que c'est une option, voilà, avec déjà un effectif qui atteint son maximum. Donc, donc c'est l'atelier hebdomadaire est fermé et les scènes slam ouvertes, la prochaine sera le 14 février en première partie du concert de David Lafort sur un retour du jeudi. C'est une scène ouverte où tout un chacun peut venir s'exprimer.
Merci beaucoup, Jérôme Cabot, maître de conférence à l'université Champollion d'Albi. Il était avec nous sur CFM Radio.
Merci.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du pays Gordais.
Le duel rhétorique et politique, une conférence donnée par Jérôme Cabot le mercredi 30 janvier dans le hall du Grand Théâtre d'Albi, c'est à partir de 18h30. C'est en accès libre et ouvert à tout le monde. Et puis le lendemain, le jeudi 31 janvier, cette fois à 20h30, c'est Jacques Weber et François Morel qui seront sur le plateau du Grand Théâtre d'Albi pour une pièce de théâtre intitulée 1988, le débat Mitterrand-Chirac, le Mac du Tarn, c'est tout à suivre sur CFM, les infos, ici à la demi-pétante.
CFM. De Cahors à Albi. L'esprit rock.